It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Womp, bomb, loom, bomb, lomp, bomb, bomb, toot-a-boot, oh, hoot.
À l'écoute de ce classique du rock'n'roll des années 50, nous allons évoquer cette semaine les pionniers d'un genre musical qui, quoi qu'en disent les historiens, appartient à la communauté noire depuis plus de 60 ans et que nous allons étudier avec notre invité du jour. Il est musicien, auteur, dessinateur et grand spécialiste des cultures afro-planétaires. Bruno Blum, soyez le bienvenu.
Everything's nice, everything cool, yeah, rock on the world.
Ça commence très fort. Vous êtes des nôtres aujourd'hui pour nous présenter une anthologie que vous avez concoctée pour le label Frémo et Associés et consacrée à l'une des figures majeures de l'épopée des musiques noires, le fantasque Little Richard, dont nous venons d'entendre le plus grand succès, Tutti Frutti, enregistré il y a pile 60 ans. C'était en 1955 à la Nouvelle-Orléans. Comment expliquez-vous que ce titre ait suscité un tel engouement à une époque où le rock'n'roll n'était pas encore totalement en vogue aux États-Unis, nous n'en étions qu'aux prémices.
Oui, il n'était pas du tout en vogue encore, et encore moins le rock noir. Elvis Presley avait commencé à faire sa percée initiale sur un label indépendant. Il n'était pas encore devenu l'énorme icône. Alors, il était connu déjà depuis quelques mois, mais c'était vraiment le début, non pas du rock, puisque le rock existait déjà dans la communauté noire depuis au moins à peu près 10 ans.
On appelait ça le rhythm and blues.
Oui, alors il y en a que certains qui appelaient déjà ça du rock and roll, mais enfin, c'était quand même un truc très marginal encore, et qui s'adressait aux jeunes, aux teenagers, Et Little Richard a vraiment été le grand précurseur du rock dans la communauté noire, et il a réussi à vendre des disques aux blancs, ce qui était absolument inouï. Quand on entend la force du titre qu'on vient d'écouter, et la folie déjà qu'il habite, c'était quelque chose de complètement inouï à l'époque, ça n'existait pas encore, et comme vous allez l'entendre par la suite, le personnage lui-même était encore plus inouï.
Est-ce qu'on peut dire que Little Richard est une exception dans l'histoire du rock? Parce qu'il n'a pas de racine rock, il vient du gospel.
Mais le rock est une musique qui vient du gospel. Et aujourd'hui, quand on vous parle de rock, vous allez penser à U2, vous allez penser à des artistes blancs, vous allez penser à des artistes qui passent sur les grosses radios américaines, anglaises, je sais pas, comme les Eagles ou Nirvana ou d'autres artistes plus récents. Alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de ligne qui sépare les Negro Spirituals du 19e siècle, le gospel du 20e siècle, le blues, le rock, le funk, le reggae,
la soul,
le rap, tout ça est extrêmement lié, c'est véritablement une forme d'expression afro-américaine, et tout se mélange tout le temps. Alors évidemment, la principale différence, c'est le message qui est porté par le rock, qui est une musique subversive, avec une connotation très sexuelle. Évidemment, à l'époque, on disait pas les choses ouvertement comme aujourd'hui. Tout était à demi-mot. Donc le mot rock'n'roll lui-même signifie pratiquer le sexe. C'est-à-dire, en fait, se balancer. Alors on disait, je vais me balancer avec ma chérie, mais on comprenait. Et tout était comme ça. Quand on parlait de boire de l'alcool, on disait, je vais boire du moonshine. Mais le rock était c'était fondamentalement, musicalement, à peu près la même chose que le gospel. Il y a d'ailleurs des gospels complètement sauvages, et Little Richard, James Brown, étaient des chanteurs de gospel à l'origine, et leur manière de chanter, c'était du gospel.
Pour bien cerner la personnalité de Little Richard et son environnement culturel, nous allons écouter de nombreux extraits de votre coffret 3 CD durant cette émission et remonter à sa prime jeunesse quand il chantait des airs doo-wop blues gospelisants au tournant des années 50.
Ain't that good news?
Ain't that good news?
Ain't that good news?
Ain't that good news?
Ain't that
Everybody's blues crazy.
Everybody's crazy about the blues.
Everybody's blues crazy. Everybody's crazy about the blues.
Ce que nous venons d'entendre est assez étonnant, Bruno Blum. Nous sommes en 1953. Little Richard est encore inconnu du grand public. Il chante des airs assez inoffensifs. À quel moment devient-il le Little Richard fantasque que l'on connaît et pourquoi le devient-il?
Alors d'abord, on va rappeler que le rock complètement sauvage venu directement du gospel avec Jesus, Jesus, ça existait déjà depuis les années, au moins les années 30. Hein. Little Richard, lui, rêvait en fait de devenir un chanteur de gospel hystérique comme ça, un prêcheur, hein, dans la grande tradition des prêcheurs afro-américains, puisque toute la communauté afro-américaine a construit sa culture sur la Bible et s'est sorti de l'ignorance et de l'esclavage grâce à la Bible. Donc Little Richard vient de là et il était très jeune, attiré par les garçons. Et il a essayé de s'émanciper. Donc il a commencé à travailler pour des gens qui vendaient des élixirs de jouvence, de la médecine, quoi. Et alors vous connaissez cette histoire, on voit les gens sur le chariot, comme ça, qui essayent de vendre des bouteilles de produits miracles à des gogos qui sont venus là pour voir ce qui se passait. Et pour attirer les clients, il y avait un chanteur. Et il a été engagé comme ça par des charlatans qui vendaient ça. Ça a commencé à marcher sérieusement. Il est parti en tournée avec l'autorisation de ses parents à 15 ans. Et comme il était attiré par les garçons, il s'est retrouvé dans un spectacle de travestis où il jouait le rôle d'une femme. Et petit à petit, comme il est devenu connu pour ça, il a travaillé dans des spectacles de travestis habillés en femmes. Et nul pouvait se douter qu'il était véritablement homosexuel et que ces spectacles de travestis, eh ben écoutez, ça se passait très bien avec le rock'n'roll, ça se mariait beaucoup mieux que le gospel. Et Little Richard a commencé avec un mentor qui s'appelait Billy Wright, hein, qui est complètement inconnu, même des spécialistes. Billy Wright était un travesti du rock, et tous ces gens-là, en 1950, 1951, en une époque où il faisait pas bon être noir dans le Sud, et encore moins travesti, et encore moins homosexuel, et encore moins drogué, eh bien, Little Richard a commencé à faire une carrière en tant que chanteur de rock travesti. Et pour ceux que ça pourrait choquer, il faut quand même rappeler que le rock a été complètement incarné par Little Richard. Toute la folie, toute la libération que portait le rock a été portée par ce personnage incroyable qui fait moins d'1m60, Little Richard, hein, le petit Richard, qui était complètement bisexuel, complètement explosé, complètement excentrique, qui s'habillait de manière impossible. Même aujourd'hui, on pourrait pas s'habiller comme ça. Et il a incarné, en fait, le véritable rock dans ce qu'il a de plus, je dirais, extrême. déjà avant Elvis Presley, ce qui est proprement incroyable.
À une époque où la ségrégation raciale rythmait tristement le quotidien des Afro-Américains, l'attitude subversive de Little Richard n'était-elle pas une manière de résister à l'oppression en portant l'attention sur un autre aspect de sa personnalité plus que sur la couleur de sa peau?
Mais c'est-à-dire qu'en fait, la grande rencontre de Little Richard, c'est un producteur noir. À l'époque, presque tous les producteurs américains étaient des juifs qui collaborait avec les Noirs. Les seuls Blancs qui collaboraient avec la communauté noire dans le domaine artistique étaient les Juifs, qui étaient eux-mêmes victimes d'oppression, d'antisémitisme. C'était terrible pour eux aussi. Donc, ils étaient copains avec les Noirs. Ils habitaient dans les mêmes ghettos. Ils étaient, bon. Il y en avait beaucoup qui étaient artistes et qui étaient des grands musiciens, etc. Et le producteur de Little Richard a envoyé son directeur artistique, Bumps Blackwell, qui était un fantastique musicien, qui d'ailleurs était un musicien de musique classique, qui avait une formation extrêmement sérieuse, et qui a tout de suite repéré Little Richard quand il a entendu ses premiers enregistrements. Et comme il aimait la musique de la Nouvelle-Orléans, Little Richard venait pas du tout de la Nouvelle-Orléans.
Il vient de Macon, en Géorgie.
Comme James Brown. D'ailleurs, il y a une forte similitude entre James Brown, qui est donc l'icône du funk des années 70. James Brown et Otis Redding ont beaucoup copié Little Richard. Mais pour en revenir aux années 50, je pense que la rencontre avec ce fantastique producteur qui lui a proposé d'enregistrer à la Nouvelle-Orléans avec les plus grands musiciens de ce qu'on appelait à l'époque le rhythm and blues a été la rencontre décisive. Et quand il a commencé à enregistrer des ballades, le producteur se disait non, c'est pas ça que je voulais. Et en répétition, dans un restaurant un jour, il lui a dit vas-y, lâche-toi un petit peu, fais ce que tu ferais pas dans le studio. Et il s'est mis à... Il s'est mis à chanter ça. Il a dit c'est ça que je veux. Et voilà, Little Richard était né, et avec lui, on pourrait dire, le rock'n'roll dans sa version grand public.
Dans le livret de votre anthologie, vous précisez que sa posture outrancière le protégeait des relents racistes en le faisant passer pour un fou inoffensif. Est-il vraiment parvenu à faire oublier sa négritude? N'était-il pas resté un artiste noir aux yeux des Américains avant d'être un immense personnage de la musique populaire américaine?
Oui, parce que c'est un très grand artiste, c'est un grand compositeur, c'est une personne qui était très évoluée, très intelligent, qui était cultivé, qui était conscient de sa différence. Il y avait vraiment des risques à être noir et homosexuel. Et alors surtout, chanteur de rock, c'est un noir qui chantait du rock et qui en plus attirait le public blanc, donc des jeunes femmes blanches. Mais il n'y a pas plus subversif que ça. Il a fait péter les plombs à l'Amérique complètement. D'ailleurs, les artistes blancs reprenaient ses chansons et ce sont celles-là qu'on passait à la radio. C'était le grand schéma du rock. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec Eminem qui copie le style des noirs. On est toujours dans ce schéma-là. Mais Little Richard est celui qui a été le premier véritablement à faire ça. Et je crois que le fait qu'il passe pour un fou était quelque chose qu'il a entretenu, parce que les artistes noirs à cette époque-là étaient vus par le grand public, entendez le public blanc, comme des espèces d'êtres inférieurs comme ça, et qu'ils soient un peu fous, qu'ils soient un peu excentriques, c'était un amuseur public, vous voyez, c'était un bouffon. Et le terme de bouffon est vraiment dans son étymologie véritable. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire passer la pilule, mais bien souvent les parents préféraient les versions blanches un peu clean. Hein.
Quoi qu'il en soit, en 1956-57, il est une personnalité reconnue et aligne un nombre incalculable de standards que nous avons réunis dans ce medley signé Jérémy Besset.
Well, it's Saturday night and I just got paid. Fool about my money, don't try to save. My heart say go, go. Have a time cause it's Saturday night. Now I'm feeling fine. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. Go ball it up. I'm gonna rock it up. And ball tonight.
To what?
Quand on écoute tous ces tubes Bruno Blum, on se demande pourquoi Elvis Presley, Bill Haley ou Gene Vincent ont connu un tel succès. Ils paraissent si fades face à la fougue de Little Richard.
This is rock and roll. Ben oui, mais parce qu'ils connaissaient pas tout ça. C'était pas leur culture. Eux, c'était la country chniaqueuse et ils étaient pas du tout dans le rock and roll. Jusqu'au jour où quelques disques jockeys qui étaient souvent des juifs, mais parfois des noirs. Le premier disque jockey noir aux États-Unis, c'est 1949. Donc c'est 6 ans avant ce qu'on vient d'entendre. Hein. Elvis vivait pas loin de la communauté noire. Il a été voir Roy Brown chanter, il a vu des artistes noirs et il a entendu ce qu'on vient d'entendre là, à quelque chose près. Et ils ont essayé de copier ça. Et la grande force d'Elvis Presley, juste après Little Richard, ça a été de mettre des guitares country qui donnaient une couleur comme ça, qui pouvait passer. Mais même Elvis Presley a été rejeté par le grand public blanc. Il a fait d'excellents disques, mais je pense quand même qu'on peut résumer en disant que Little Richard, c'était la version originale du rock'n'roll. Et Elvis Presley, c'était la version, disons, grand public. Et ça a été très bien. On est très content qu'Elvis ait fait ça. Ça a fait plus de choses pour les Noirs aux États-Unis à cette époque-là que tous les discours, que toutes les manifestations, puisque ça a rapproché les jeunes qui se sont mis tout à coup à danser et à chanter la même musique.
Est-ce qu'on peut dire que le rock blanc était une supercherie à l'époque ?
Mais c'était formidable, le rock blanc, c'est la même chose, c'est un échange et c'est un rapprochement des peuples. Et Little Richard a été certainement, avec Chuck Berry et Bo Diddley, le plus grand artiste de la musique populaire noire de l'époque, avec quelques autres, on va dire, parce qu'il y en a juste 5 ou 6 000 qui ont compté. Mais enfin, Little Richard, c'est un absolu monument de l'histoire de la musique américaine. Et l'excitation que vous venez entendre, vous la retrouverez nulle part ailleurs. C'est vraiment... incroyable la façon de... D'ailleurs, ça me donne envie de chanter.
Écoutons maintenant ce document de 1957.
Visiting this country with Gene Vincent is another top rock and roll outfit. Whether you're teenage or I'm teenage, this sort of music can certainly get in your blood. A top liner from America, a recording artist who sells them there by the thousand, here he is to let you people from here, there and everywhere hear just how his boys sound on this show. You can rock and roll again, this time with Little Richard.
Venons-nous d'entendre Bruno Blum ?
Alors écoutez, Little Richard, après 3 ans de folie, il avait une voiture avec un coffre plein de billets de banque qu'il distribuait aux copains, il se baladait avec des valises remplies de billets de banque, il était devenu millionnaire, il savait plus quoi faire de son fric, il avait une Cadillac rose, il était complètement une superstar aux États-Unis, détesté par les uns, adulé par les autres, il partait en tournée jusqu'en Australie, il avait jamais pris l'avion de sa vie.
D'ailleurs, c'est un enregistrement australien que nous venons d'entendre.
Et il arrive avec Gene Vincent et les Blue Caps en tête d'affiche. Il était la plus grande star devant un blanc, en tête d'affiche au-dessus de Gene Vincent, qui avait eu un énorme succès avec Bipopolula. Il arrive à Sydney et dans un stade, il se met à chanter dans le délire absolu. On lui arrachait ses fringues. Enfin, c'était toute l'histoire des Beatles, mais 10 ans avant, quoi. C'était vraiment ça qui lui est arrivé. Et il ne croyait pas ce qui se passait. Il était complètement abasourdi par son succès, qui était unique en son genre. On n'avait jamais vu une telle folie dans des concerts. Ça n'existait pas. Même Elvis ne déclenchait pas une furie pareille. Il faut comprendre. On est en 1957 aux États-Unis. Le mouvement des droits civiques vient à peine de commencer. Et Little Richard, sur la scène à Sydney, voit un truc qui passe dans le ciel, et il se dit, ça c'est un signe de Dieu. On rappelle qu'il vient quand même d'un milieu mystique du gospel, d'une famille qui chantait le gospel, il est complètement imprégné de ça, et il se dit, c'est pas possible, je suis en train de faire quelque chose de mal, et je dois arrêter, Dieu m'a envoyé un message en voyant ce truc qui passe dans le ciel, je sais pas trop ce que c'est, il a cru pendant longtemps que c'était le Spoutnik, et en plein milieu d'un morceau, il laisse tomber le piano, il sort de scène, et il dit, j'abandonne. Il avait... $1 million payé d'avance en engagement. Il n'a pas tenu ses contrats, il lui restait 4 concerts à faire. Et le lendemain, il était dans l'avion qui le ramenait aux États-Unis. D'ailleurs, il a dit après que l'avion qui normalement 4 jours plus tard devait le ramener s'est écrasé et que c'était donc bien un signe divin. Enfin bon, il arrête complètement et il dit « je rentre au couvent ».
Et après cette tournée australienne avortée, il rejoindra donc les États-Unis à la hâte et entrera dans un mysticisme intense en compagnie de Joe Lutcher. Qui était ce monsieur ?
Alors, on va dire quand même qu'il a fait un concert après ça, parce que son grand ami Alan Freed, qui était le juif new-yorkais qui a lancé le rock à la radio américaine et qui passait des disques de musique noire, lui avait demandé de chanter à l'Apollo pour faire un concert d'adieu qu'il a fait. Hein, on précise quand même ça parce que c'est important dans l'histoire. Et ensuite, un missionnaire vient taper à sa porte. Il s'était payé une maison pas possible à Los Angeles, dans le quartier des milliardaires, avec toute sa famille. Il habitait là avec sa mère, qui avait vécu toute sa vie dans une extrême pauvreté.
Dans le sud des États-Unis.
Dans le sud des États-Unis, dans des ghettos pas croyables. Le père avait été assassiné. Enfin, c'était vraiment très dur. Et tout à coup, il décide d'écouter ce missionnaire qui le convainc d'entrer dans les ordres et d'essayer, bien qu'il soit une grande star du rock, de devenir un prêcheur. Bon, alors c'était bien beau le gospel, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis on l'a engagé, il commençait à plus avoir un rond, alors qu'il avait été millionnaire, il avait tout claqué. Il se retrouve en tournée en Angleterre, croyant qu'on l'avait engagé pour chanter du gospel. Mais il y avait un groupe de rock en première partie, puis deux, puis trois. Il a fait ça, il a fait du gospel, il s'est fait siffler. Et le lendemain, il a vu le groupe de première partie qui chantait du rock. Il y avait Billy Preston, qui avait rejoint les Beatles après, qui chantait du rock et tout le monde adorait et tout. Et on lui a dit, mais vas-y, fais au moins un truc. Et puis tout à coup, il a pété les plombs encore une fois. Il s'est habillé en folle, en blanc, avec des paillettes. Il est arrivé, il s'est mis à hurler du rock et c'est reparti comme en 14. En 2 secondes, toute la salle a acclamé le retour du messie du rock et la carrière de Little Richard est repartie aussi vite qu'elle s'était arrêtée, comme s'il n'y avait pas eu cette parenthèse de 6 ou 7 ans.
Et c'est ainsi qu'il s'est remis au rock'n'roll en enregistrant des titres de Fats Domino dans ce Valley of Tears 1962.
I want you to take
of Tears, Little Richard adapte Fats Domino et reprend la route du rock'n'roll qui sera plus ou moins glorieuse au fil des décennies. Votre anthologie s'arrête en 1962, Bruno Blum. Que faut-il retenir de la décennie que vous commentez dans ce coffret 3 CD ?
Alors la décennie des années 50 jusqu'à 62, on va dire, c'est la période qui précède le succès mondial des Beatles, c'est la période qui précède le succès mondial des Kinks, des Rolling Stones et de tous les rockers blancs anglais qui copiaient la musique américaine, un petit peu comme si demain vous avez des Chinois qui se mettent à faire de la peinture impressionniste européenne. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des influences qui circulent dans le monde, mais là, tout à coup, cette musique qui est spécifiquement américaine, spécifiquement noire, et qui se casse complètement la gueule à la fin des années 50, à la suite de plein de scandales, enfin, le rock était tellement subversif que ça pouvait pas durer. Alors, il y a eu des trucs un peu plus calmes, comme ce qu'on vient d'entendre là, de Little Richard, mais il y a eu plein d'autres chansons qui étaient beaucoup plus douces. Et puis, ce sont les Beatles qui ont remis le feu au rock hein, dans les années 60 en Angleterre. Puis, ils sont partis aux États-Unis. Donc, on peut dire que c'est la version originale. Et je précise quand même que avant Little Richard, il y a eu quand même une période beaucoup plus obscure avec très peu de succès, que je viens de rééditer, qui s'appelle Rice Records. Je vous le dis comme ça, parce que les véritables racines du rock, la première génération du rock, n'a pas été véritablement connue, et reste encore aujourd'hui très très marginale. Et je pense que Little Richard, c'est quand même le plus grand du genre, donc voilà, vous avez compris.
Rappelons que Little Richard est le 12e meilleur chanteur de tous les temps selon le magazine Rolling Stone.
Mais non, c'est le premier, voyons.
Je rappelle par ailleurs que vous avez également fait paraître chez Frémo et Associés une anthologie Myriam Makeba et un coffret Roots of Funk qui s'ajoute aux Roots of Soul, Roots of Ska, Roots of Punk Rock. Je n'ai plus qu'à vous dire bravo.
Mes amitiés, mon cher Joe Farmer, et surtout, keep on rocking.
Je vais essayer. Un petit rendez-vous avant de se quitter, le festival Jazz sur scène qui se déroule dans les clubs de Paris aura lieu du 9 au 24 octobre prochain avec une programmation très éclectique et notamment Evan Christopher de la Nouvelle-Orléans qui adaptera Django Reinhardt en créole, Mario Canonge, Alain Jean-Marie et Gérald Toto pour les Antilles, Nicholas Payton, immense trompettiste de New Orleans, ou encore un hommage à Michael Jackson en version gros cas par le trompettiste Frank Nicola. Bref, il y en aura pour tous les goûts du 9 au 24 octobre à Paris. La semaine prochaine, nous évoquerons un pionnier du folk blues américain, né en 1885 en Louisiane, il y a 130 ans. Il s'appelait Led Belly et il fait l'objet d'un album hommage signé Eric Bibb et Jean-Jacques Milteau que nous vous ferons découvrir en avant-première. Merci à Jérémy Besset pour la réalisation rock'n'roll du jour. Une pensée pour Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.